à voix nue. À l'occasion de l'exposition Jardin au Grand Palais, nous écoutons toute cette semaine la rencontre entre Ruth Stegassi et Gilles Clément, diffusée en 2009. Ce soir, le jardinage de soi-même.
Gilles Clément, un photographe, a publié récemment un livre sur des jardins et des jardiniers, avec un principe que j'ai trouvé assez joli. Le photographe, c'est Bruno Suette. Il a fait des très beaux portraits d'une dizaine de jardiniers dont vous faites partie. Et puis, à la fin du livre, il a mis une série de photos de leurs mains. Et les uns tiennent une motte de terre, d'autres tiennent un râteau, d'autres encore un nain de jardin ou quelque chose comme ça, ou l'équivalent. Mmh. Et vous, Gilles Clément, vous tenez un stylo, vous écrivez.
Oui.
Il y a la main qui jardine, la main qui écrit.
Oui, c'est vrai que c'est indissociable chez moi. Il m'arrive même d'aller avec un carnet et un crayon faire des relevés. Donc ça, c'est simplement l'observation pour faire des comparaisons avec les années précédentes, pour voir comment les choses évoluent. Et je pense qu'il y a beaucoup d'importance à relever et à nommer. Mais ça va au-delà. C'est que j'ai toujours écrit, finalement, même si j'ai commencé à publier très tard, mais j'ai toujours écrit des choses. Et il y a dans le jardinage et l'écriture des points communs. C'est-à-dire une recherche de quelque chose qui est précis, une chose précise et exacte, qui va permettre pour le jardin de réussir techniquement, mais pour la phrase de se construire et d'être entendu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé tôt, mais dans les deux cas aussi, c'est probablement plus inconscient, c'est quelque chose qui fonctionne comme un jardinage de soi-même, comme une recherche de l'équilibre. Quand on est complètement perdu, parce qu'à un moment de ma vie, je l'ai été, on a recours aux mots, on a recours aux mots qu'on écrit à soi, c'est-à-dire qu'on a incarné, parce qu'il n'y a plus personne pour vous écouter. Et c'est très connu, ça. Ce sont des moments importants dans la vie, surtout de quelqu'un de jeune. Et dès que l'on a compris que quelque chose s'éclairait simplement par le fait de le rédiger, à ce moment-là, on peut aller au-delà, on peut aller en avant. Parce qu'il y avait un blocage avant, sinon. On ne pouvait pas parler, il fallait bien commencer par quelque chose. On a la chance de pouvoir écrire. Alors je l'ai utilisé, j'ai même été un peu plus loin à ce moment-là. Je me souviens que dans mes premiers textes, il y avait des sortes de nouvelles, et même une pièce de théâtre, des choses de ce genre. Mais un peu plus tard, l'écriture m'a servi, alors en la travaillant vraiment, pour aborder des aspects plus professionnels. Aussi bien des romans, d'ailleurs, c'est arrivé également. J'espère que ça m'arrivera encore, parce que j'ai des idées de fiction qui m'intéressent, mais toujours, même la fiction, est liée à une prospective, à quelque chose sur lequel je suis en quête, et qui est en rapport avec notre avenir, notre démarche générale, nos gestes, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que ça signifie finalement que d'être là. Alors voilà, donc ces deux choses sont vraiment, c'est vrai, complètement indissociables pour moi.
Si on revient à ce que vous disiez, ce besoin de mettre en mots pour préciser une pensée, de même que jardiner, c'est une manière de préciser une image, peut-être. Si maintenant vous nous en parlez vers son jardin, comment est-ce qu'on jardine avec des mots?
Alors, c'est un peu plus compliqué pour le jardin, parce que on n'a pas affaire à des mots qui sont finalement un matériel qu'on a mis en place, qu'on connaît avec son stock, comme il existe dans un dictionnaire, avec une grammaire, qui est une manière d'utiliser tout ça, mais à un nombre de paramètres qui est immense et que l'on ne connaît pas toujours, parce que ça reste des mystères, même pour les scientifiques, même pour les spécialistes. Et donc, c'est un domaine expérimental, c'est empirique. là, on a affaire à la vie, c'est-à-dire à des êtres qui ont leur propre invention, c'est-à-dire qui forgent eux aussi, de leur côté, des systèmes de communication avec nous ou entre eux, et qu'on ne connaît pas bien, qu'on connaît même extrêmement mal. Quand tout à coup, on vous dit, voilà, il faut mettre des carottes avec les tomates, parce que ça les favorise l'une l'autre, et que c'est vrai, on le vérifie. Ça reste empirique, c'est le résultat de toute une histoire vraiment très, comme ça, d'observation de jardiniers qui n'ont jamais écrit, mais qui ont fait passer de bouche à oreille leur savoir, et qui sont des savoirs prodigieux. Mais on peut faire ces expériences-là, les multiplier à l'infini soi-même, avec des espèces qui n'ont jamais été explorées parce qu'elles n'ont pas lieu de l'être, parce qu'elles ne sont pas vivrières, parce qu'elles n'ont pas, elles sont pas rentrées dans le commerce, parce que, et il en existe énormément. Dans un seul jardin, je ne sais pas, comme le mien, j'ai peut-être 2 000 à 3 000 espèces différentes. Je pourrais m'amuser à faire des observations à l'infini en les multipliant, les combinaisons. Donc le jardinage est quelque chose qui se complique énormément dès qu'on commence à jouer avec la diversité.
Le risque, c'est celui de la noyade.
Oui.
Je pense là un mot qui revient très souvent chez vous, lorsque vous parlez de la relation au jardin, au paysage, c'est la nécessité de l'immersion. Immersion, mais non noyade.
Oui, oui, oui. Il y a un risque de la noyade. C'est d'ailleurs le risque des collections. Parce que dans la collection, il y a une juxtaposition d'êtres qui est presque névrotique au bout d'un moment, et qui est là pour on ne sait pas trop quoi satisfaire. Ce que j'entends par immersion, c'est une position presque d'équivalence avec un ensemble qui ne nous veut pas forcément du mal, et dans lequel on peut se trouver bien si on apprend à connaître cette diversité-là, qui n'a pas besoin d'être multipliée par la collection, qui peut être celle d'une flore indigène ou d'un jardin, voilà, mais enfin sans plus. Mais la disposition de ces plantes et la position de l'individu au-dedans a énormément d'importance aujourd'hui. Je trouve que le caractère de l'immersion identifie un peu le jardin qui serait celui d'aujourd'hui. Alors que celui qui est un petit peu avant nous, une espèce de néoclassicisme inspiré des jardins édouardiens anglais, reste une série de tableaux. Celui avant de la période romantique est encore plus l'idée pittoresque justement de la peinture et du tableau, avec cette nature dramatisée, scénographiée, magnifiée, mais en même temps à distance quand même. Et puis, si on remonte encore avant, d'autres mises en situation, comme les jardins classiques, où on a l'organisation jusqu'à l'infini, la prise de l'espace et du pouvoir, par conséquent, jusque même au-delà de l'horizon. C'est plus du tout ça qu'on veut raconter aujourd'hui, puisque c'est la vie qu'on privilégie dans cet ensemble qui est le jardin, et à ce moment-là, c'est cette diversité qui a de l'importance. Et du coup, c'est nous par rapport à ça. C'est pourquoi le mot d'immersion, je trouve, caractérise mieux ce que l'on pourrait faire et dire, et ce qui est dit parfois dans les jardins d'aujourd'hui. Pas toujours, hein, car il y a une telle tendance à la racialisation, à la mise en forme, au formalisme issu du land art et des arts plastiques dans les jardins aujourd'hui, que finalement ça peut venir au détriment de cette grande question qui est le respect de la vie.
Il y a peut-être même aussi une volonté de discourir dans les jardins aujourd'hui, ce qui est sans doute une maladresse qui se comprend mieux quand on vous écoute, parce que tout simplement la vie, vous dites qu'il faut s'y immerger, c'est l'éprouver. Et quel autre moyen que justement reprendre ce que nous savons faire, le discours, les mots, la parole. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi l'écriture, justement, qui permet d'échapper au discours et en même temps de dire les choses.
Oui, ça permet en effet d'échapper à quelque chose qui est une sorte de simplification du discours qui consisterait à donner des thèmes dans les jardins, comme tout à coup on raconterait l'histoire d'un ogre ou bien je ne sais pas quoi, une espèce de complètement décalé, mais qui est thématique et qui donne lieu à tellement de parcs comme... je ne sais pas, les parcs thématiques de loisirs qu'on connaît autour de Paris et ailleurs, et là qui nous détourne complètement de la question fondamentale, qui est celle qu'on vient de dire avant, et où la question de la diversité et de la vie sont en jeu avec l'avenir même de l'humanité, ce que toute l'écologie, et depuis le milieu du XXe siècle, nous apprend et nous amène à comprendre progressivement, douloureusement d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même les questions du temps. Donc ça nous en écarte, en effet. Mais je continue à avoir un certain discours dans mes jardins, mais qui sont ceux de la signification, tout simplement. C'est le sens, quel sens donne-t-on à ce que l'on fait là? Et c'est pour ça que mes jardins sont formellement tous très différents les uns des autres. C'est parce que à chaque fois, la question posée est une question différente. Quand je fais un jardin en milieu méditerranéen comme au domaine du Rayol, eh bien...
Jardin
du feu. Parce que je trouve qu'à ce moment-là, au bout d'un moment, quand j'étudie la question, je me rends compte que le point commun à tous ces êtres vivants, c'est le feu. Partout dans le monde, c'est-à-dire partout là où il existe un climat méditerranéen dans le monde. Alors, c'est un peu le sujet, justement, de ce jardin-là qui rassemble à travers la notion de biome une série de paysages où se situent ces climats-là. Et bon, ben, cette forme que je vais pouvoir donner à cette question, elle répond à la question. Elle n'est pas une forme en soi.
Mettre du sens, sans nécessairement le dire,
oui,
c'est aider ou inciter chacun à l'éprouver, justement, à s'y immerger?
Oui, je crois que si on répond à la question que le lieu pose, eh bien, les gens qui viendront là comprendront pas forcément toute la réponse qui a été donnée, mais peut-être seulement une partie, et ce serait déjà tout à fait bien. Et si vraiment ils ne le voient pas du tout, ils voient quelque chose quand même, qui est qu'on a voulu dire quelque chose, même s'ils ne comprennent rien. Et c'est cette seule interrogation-là les amène à réfléchir eux. Et puis, en fin de compte, le plus important n'est pas forcément là. Il m'est arrivé de faire des jardins où la conception a beaucoup de consistance et où tous les enchaînements logiques sont très importants, mais ils sont importants pour moi, c'est-à-dire moi, le concepteur, parce que je ne veux pas qu'il y ait des contradictions à l'intérieur du discours. Et je pense au parc André Citroën, qui est une construction mentale qui est complexe, mais que l'on se promène dans ce parc et que finalement on ne comprenne absolument pas ce discours parce qu'il n'est pas non plus écrit, que tout ce que j'ai pu mettre comme système de correspondance n'a absolument aucune...
Et pourtant, il est d'un symbolisme, oui, très, très enchevêtré, je dirais,
oui,
puisqu'il y a des relations aux métaux, aux jours de la semaine,
aux couleurs,
aux roches. Aux roches aussi, oui.
Et ça, c'était très amusant, bon, à faire. Et les gens, maintenant, c'est vrai, connaissent un peu les jardins sériels, par exemple, qui sont ceux qui portent le plus de charges, comme ça, significatives et conceptuelles. Ils les connaissent plutôt par leurs couleurs que par les autres systèmes de correspondance. Mais quelques-uns d'entre eux connaissent bien, parce qu'ils sont allés vers les livres où là, j'explique. Mais si on ne connaît pas ça, ça n'a aucune importance. Parce que l'important pour moi, vraiment, ça se voit après aux enquêtes, c'est quel usage on fait de tout ça, comment on se sent là-dedans. Et s'il y a des gens qui disent qu'ils s'y sentent bien, la partie est gagnée. Et je suis très touché quand je vois des usages que je n'avais absolument pas prévus. Il y a des endroits comme le jardin vert du parc André Citroën où les mamans amènent leurs enfants. C'est le jardin du son, hein, là-bas. Et il y a le son du vent dans les roseaux, il y avait la fontaine, bon, elle bat plus, mais enfin elle était censée rythmer le temps. Et elle les emmène là parce que justement les enfants se taisent, parce que c'est un creux et je ne sais pas ce qui se passe, et ils se sont calmés là-dedans. Alors, il n'est pas nécessaire que tous les gens qui en font l'usage comprennent ce qui a été dit au départ.
La vie qui se déploie entre les lignes que vous avez tracées Légèrement. Puisque là, on reste dans ce système d'écriture. Vous parlez de la réflexion en amont de chaque jardin, et de fait, à chaque fois, c'est une question que vous vous posez, et que vous posez, et elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. En effet, vous parliez de la différence formelle de vos jardins, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que chacun d'eux correspond à une question totalement différente. Je pense à ce jardin que vous avez fait à la mémoire de Lamarck, à Valoir. Oui. Cet autre jardin qui me touche beaucoup, l'île d'Herborance,
oui,
dans le parc Henri Matisse, à Lille.
Oui, ça c'est vraiment une histoire étonnante pour un paysagiste. D'ailleurs, l'histoire du jardin en mouvement au parc André Citroën en est déjà une, car il a bien fallu que la ville accepte une chose aussi particulière, de faire une friche dans Paris au prix du mètre carré, que l'on connaît. Et à l'île d'Herborance à Matisse, c'est encore un peu un échelon au-dessus. C'est donner un morceau de terrain qui fait 3500 m² au milieu du parc de 8 hectares, donner ce morceau surélevé, inaccessible, soclé, à la seule nature. Les hommes ne peuvent pas y aller. Et bon, c'est un peu frustrant. C'est un fragment de tiers-paysage, là, pour le coup, tel que je le définis, c'est-à-dire un lieu d'accueil à la diversité totale, fait par la nature, un lieu d'indécision, puisque finalement on n'y va pas, on ne fait juste qu'une observation. Et c'est le montrer au milieu d'une ville d'aujourd'hui, avec la pollution que l'on sait, avec les usages que l'on imagine, et fabriquer cette nature-là. Ça, c'était théorique au début, ce que j'avais imaginé, fabriquer un mélange issu du brassage planétaire.
Mais tout de même, Gilles Clément, vous étiez parti d'une interrogation qui était très ancrée dans ce lieu, puisque vous étiez sur les anciennes fortifications. Et vous vous êtes demandé, dans cette ville qui se protégeait, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à protéger ?
Voilà.
Et en fait, votre réponse, c'est l'avenir.
Oui. C'est exactement ça, c'est-à-dire l'avenir à travers sa diversité, parce que nous dépendons de cette diversité, forcément. Tout ce que nous avons dans notre assiette, ne serait-ce que ça, dépend de cet environnement que nous exploitons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Si on ne pointe pas là-dessus par un geste comme celui-ci, qui est considéré d'ailleurs comme artistique par les artistes eux-mêmes, c'est amusant ça, j'avais pas prévu. Mais si on ne pointe pas dessus, au moins par le discours, eh bien, évidemment, on passe à côté d'une très grande question, encore une fois, et à mon avis, on ne peut pas. Donc, ce jardin, il parle de cette urgence-là.
Il parle aussi du passé, puisque d'Herborance, c'est la forêt de Ramu.
Oui. Alors, je l'ai appelé l'île d'Herborance parce qu'au moment où je faisais le concours, il y avait au sommet d'un massif alpin dans le Valais une forêt qui existe encore, mais un peu différente. Elle s'est couchée par un ouragan. J'avais lu, moi, les livres de Ramu qui parlent d'Herborance, puis c'est un joli mot. Et c'était considéré dans les articles de l'époque, il y a, je sais pas, 20 ans, 15 ans de ça, comme une forêt qui était primaire en Europe. Une des rares, avec quelques-unes d'autres en Pologne, dont très très peu. Une forêt primaire, c'est un lieu où l'homme n'est jamais allé. Et j'étais jamais allé parce que les parois étaient verticales et qu'on n'y accédait pas. Donc la scénographie que j'ai mise en place, qui est en fait l'exploitation d'une colline qui existait, mais dont j'ai gardé seulement la partie la plus haute, j'ai mis donc des parois verticales pour isoler ce sommet.
Empêcher l'accès pour aiguiser le regard.
Alors, empêcher l'accès pour en faire un objet sacré, c'est-à-dire quelque chose de à la fois starifié et de protégé. Mais il y a une observation, plusieurs même, qu'on fait par an, soit avec le gestionnaire, quelqu'un qui s'appelle Éric Laguin, qui est un très bon gestionnaire, dans le sens où c'est un vrai jardinier, qui a tout à fait compris les questions du jardin en mouvement et du discours du tiers paysage là. Et avec lui et d'autres, parce qu'on peut y aller avec des scientifiques, on peut y aller avec des écologistes, observateurs, des gens qui font des relevés. On y va deux ou trois fois par an, et là on voit comment la nature évolue, et on en tire un enseignement pour la gestion du parc en dessous, qui est public, évidemment, bien sûr, pour tout le monde, et où il y a là une gestion différenciée qui est la plus économe possible. On n'y met pas d'eau, ou le moins qu'on peut, on n'y met pas d'intrants, on est vraiment très précautionneux là. Une gestion fort intéressante. Alors voilà, donc c'est ce qu'on trouve en haut de cette île, c'est des espèces d'abord herbacées qui se sont emmêlés avec des épineux. C'est normal, c'est une friche armée, mais maintenant il commence à y avoir des arbres qui y poussent et ça finit par faire exactement ce que nous avions imaginé sur les dessins, une petite forêt perchée. On y trouve beaucoup de ballons aussi. Oui. Ben oui, parce que comme tout autour il y a un grand boulingrin, un grand carré de pelouse où les gens jouent au ballon, quelquefois il y en a qui arrivent là-haut. Alors tous les ans on rejette par terre une dizaine de ballons.
La récolte annuelle.
La récolte annuelle, des ballons prisonniers là-haut.
Cette gestion qui entend protéger l'avenir, je reviens sur cette idée parce qu'elle me paraît importante. En fait, elle correspond pour vous à une prise de conscience qui s'est affinée avec les ans, et par affinée, j'entends non pas devenue plus légère, mais peut-être au contraire plus drue, plus forte.
Dans la progression de mon parcours, moi je suis parti d'idées assez gentilles au fond, mais un peu insouciantes. Où le jardin est une sorte d'aménité heureuse, systématiquement, avec de toute façon des tas de fleurs, des tas de couleurs, on fait joli, ce qui n'est pas si mal déjà. Bon, mais petit à petit, je me suis rendu compte que les choses c'était pas seulement ça, c'est que on pouvait essayer de faire joli, mais que c'était plus intelligent, économe, par exemple, de ne pas changer la terre. Pour mettre une plante dont on a envie, mais qui ne pousse pas dans ce milieu, par exemple un rhododendron dans une terre calcaire, ça marche pas, alors on va changer la terre. Et non, je me dis non, au fond, il vaut peut-être mieux trouver quelque chose qui aurait un peu un comportement de fleurissement, comme ça, spectaculaire, vers la même époque, mais qui ne serait pas un rhodo du tout, mais qui pousserait bien là. C'est beaucoup plus simple, ça évite plein de choses. Et petit à petit, comme ça, j'ai cherché quelle était, au fond, l'économie des gestes, la meilleure, mais ça obligeait à réfléchir pour faire les choses qui sont ajustées. Qu'est-ce qu'on ferait? Quelle est la réponse juste, techniquement juste, à ce lieu? Ça, je ne parle même pas des questions de sens, là, mais des questions qui sont portées par les exigences du climat, la pédologie, l'usage des humains là-dedans. S'il y a des enfants qui jouent au ballon, par exemple, les branches très fragiles, les plantes très fragiles, il faut les mettre plus loin, enfin des choses comme ça. Bon, mais si on est dans un milieu où il y a de l'eau, est-ce qu'il faut drainer parce que c'est humide? Mais peut-être pas. Il y a des plantes de marais qui sont tellement belles et intéressantes, et ainsi de suite. Donc j'en suis arrivé à des questions qui sont de plus en plus serrées sur la compréhension des systèmes, sur une certaine intelligence de la vie. Et à partir de ce moment-là, on devient exigeant. Parce que on n'accepte plus des commandes idiotes qui sont « je voudrais ça parce que je l'ai vu dans telle revue ». Vous voyez? Mais ça veut dire quoi, ça? Oui, mais ça correspond à pourquoi? Puisque là, vous avez un si joli terrain avec un marécage. Pourquoi est-ce que vous voulez un golf, là? Ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux faire un marécage avec une petite tourbière ou je ne sais pas trop quoi. Mettre des plantes carnivores, par exemple, etc. Et de fil en aiguille, je suis passé de ce genre de choses-là à une compréhension beaucoup plus globale des questions vers une écologie réelle et puis sortant de l'échelle même du jardin. Et là, ça s'est politisé très rapidement.
L'arbre est devenu capitaliste.
À ce moment-là, la question se repose, voilà, de savoir si l'arbre est ou non devenu capitaliste. Mais je pense pas. Je pense qu'il est très généreux.
Mais on vous a vu hier herboriser sur les bords de la Nationale 20. Et aujourd'hui, en fait, votre regard se déploie. Il englobe non seulement la totalité des paysages, mais la question... ou une des questions que pose chaque paysage. Je dis une des questions parce qu'évidemment, on n'épuisera jamais les questions. Vous avez parlé tout à l'heure de ce foisonnement et de cette multiplicité à l'infini. Dès qu'on s'approche du vivant, tout se met en marche et tout peut aller dans tous les sens, effectivement. Donc, ce fil politique, si on essaye de le tirer, à l'intérieur de ces paysages, c'est un fil, en effet, qui, que vous suivez, que vous n'avez plus jamais lâché.
Non.
En fait.
Oui, on m'a vu, comme vous disiez, hier, mais hier en 68, herborisé sur les bords de la Nationale 20. Mais hier, j'étais à la Courneuve, dans une friche, avec un groupe de gens, organisé par Monty Laster, qui est quelqu'un qui est un paysagiste et un artiste qui génère des tas d'activités là-bas. Et j'ai herborisé, justement, avec des gens qui me regardaient faire, et je dénombrais les espèces, tout simplement. Pour leur dire, voyez là, on a une grande diversité, de la même façon qu'il existe une diversité partout dans des lieux qui sont finalement hors surveillance. Et c'était l'ancien bâtiment Ravel, une barre qui a disparu. Et à la place de cette barre, dans les 4000, puisque c'est ce lieu un peu sensible, il y a une friche qui est très très belle.
Et donc vous faites des propositions ? Propositions de faire ce que vous appeliez une forêt solaire ?
Un verger solaire.
Un verger solaire ?
Mais oui, mais ça, c'est malheureusement un projet qui ne s'est pas réalisé. C'était pour la gare du Prado, devenu parc.
C'est pour ça que je parle de proposition.
Oui, bien sûr, oui. À Marseille. Et là, j'avais imaginé une chose qui aujourd'hui paraît banale, mais à l'époque ne l'était pas. C'est un verger solaire. C'est-à-dire qu'il y avait, sur une partie du parc, une sorte de verger générateur de l'énergie pour la totalité du parc. C'était tout à fait facile à monter. Ça a fait extrêmement peur à la mairie de l'époque. Je pense encore d'ailleurs à celle d'aujourd'hui, car malheureusement, elle n'a pas changé d'état d'esprit, c'est-à-dire que son niveau est assez bas sur le plan de l'entendement écologique planétaire aujourd'hui. Dans un pays où il y a du soleil, comme à Marseille, on pourrait bien penser que ça va de soi, finalement. Donc le verger solaire du Prado, c'est un espèce de dessin un peu arabe où il y a des petits canaux qui vont d'un arbre à l'autre suivant une forme dans losange, et un arbre sur deux est un vrai, l'autre est un tronc métallique avec un panneau solaire. Et ça, c'était l'usine génératrice de tout le parc pour l'éclairage, enfin tout ce dont on a besoin. Ça pouvait même déborder, c'est-à-dire elle donnait de l'alimentation énergétique au quartier en périphérie. Je viens d'installer sur ma propre maison dans la Creuse deux petits panneaux solaires, hein, il n'y a pas besoin de faire, avec des batteries stationnaires, c'est miraculeux, ça marche très très bien.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Ruth Stégassy avec Gilles Clément, diffusée en 2009. À voix nue. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Claire Levasseur, réalisation Olivier Bétard, Julie Béressy, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr. Mm.